Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, en direct sur Radio Immo.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Immo. Nous sommes vendredi 31 mai, on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle émission riche en actualité immobilière, une nouvelle émission aussi avec un invité en seconde partie, mais pour cette première partie, je suis avec Erwan Lemercier, bonjour.
Bonjour Bérénice, bonjour à tous.
Comment allez-vous ?
Très bien, et vous ?
Oui, le mois de mai se termine.
Quand on sort, on dirait pas trop le mois de mai, mais oui.
C'est vrai, on dirait plutôt octobre. C'est vrai que c'est compliqué ce temps, hein, et ça a été compliqué, on en parlera. Il y a eu des événements cette semaine, on en parlera sur Radio Immo. Et c'était pas toujours évident sous la pluie, notamment l'événement Drive to Zero, on en parlera à l'hippodrome de Longchamp. On parlera aussi de la portabilité des prêts, Erwan. Hein. Je crois que les banques ne sont pas...
Non, pas tout à fait d'accord avec ce que la FNAIM ou plusieurs professionnels du secteur peuvent proposer, effectivement.
Voilà, vous nous en parlerez dans quelques instants. On parlera aussi de Kylian Mbappé, hein, qui a fait un nouvel achat. On parlera des villes étudiantes, des villes où voilà, les étudiants ont le moins de chances de trouver un logement. C'est une étude qui vient de tomber. On fera un focus sur la ville de Marseille. La cité phocéenne, est-il possible de la densifier, de construire encore à Marseille? Et puis, alors en seconde partie, notre invité sera Sylvain Grataloup. C'est le président de l'UNPI, l'UNPI qui assure la défense des intérêts des propriétaires. C'est l'Union nationale des propriétaires immobiliers. On va découvrir ce syndicat. On va découvrir aussi le parcours de Sylvain Grataloup, qui était avocat, qui est toujours d'ailleurs avocat. Voilà, une belle émission. C'est parti pour le Mac de l'Immo.
Le Mac de l'Immo sur Radio Immo.
Et pour bien se mettre en jambe, comme chaque vendredi, hein, on a l'habitude, on commence avec votre revue de presse, Erwan. Et cette semaine, alors, plein d'actus croustillantes, le bilan de ce premier trimestre 2024 pour le marché immobilier francilien par les notaires du Grand Paris. Je rappelle que la conférence de presse a eu lieu dans nos studios. Et puis un peu de sport, hein, ça fait toujours du bien, je vous le disais. On parlera de la nouvelle acquisition de Kylian Mbappé à Madrid. On commence donc divulguer en premier sur notre antenne ce mardi 28 mai. Le tant attendu bilan pour le premier trimestre des notaires du Grand Paris a été dévoilé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces chiffres n'étaient pas vraiment ceux attendus.
Alors, pas réellement attendus, mais c'était pas non plus une surprise pour les notaires du Grand Paris. En effet, puisque le mode du fonctionnement du marché n'a toujours pas bougé, le niveau actuel des taux de crédit à l'habitat n'est donc toujours pas en faveur des ménages, ce qui entraîne une dégradation de leur solvabilité, ce qui les incite à reporter leur projet faute de moyens. Un exemple simple et concret, d'après la Banque de France, 21,7 milliards d'euros ont été prêtés aux ménages au premier trimestre 2024 contre seulement 56,3 milliards au premier trimestre 2022, soit une baisse de 61% en deux ans. Et puis dès le début du club notarial de l'immobilier, qui est disponible en replay sur radioimmo.fr, on le rappelle, les premiers chiffres arrivent, une baisse des prix de 2,3% pour les appartements, moins 3,6% pour les maisons en trois mois. À première vue, les signes sont positifs puisque les prix baissent, mais la réalité, elle, est tout autre. Le chiffre des volumes tombe, 22 450 ventes de logements anciens, un premier chiffre en baisse de 24% par rapport à l'année passée. Sur l'année, moins 23% pour les appartements en Ile-de-France, moins 27% pour les maisons en Ile-de-France. Et puis comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, en se basant sur l'avant-contrat et dans la prolongation du mouvement qui est déjà observé, les notaires du Grand Paris anticipent une poursuite de baisse de l'activité au second trimestre, mais à un rythme plus doux. Prenons par exemple le marché de la maison qui avait bénéficié d'un énorme intérêt à un post-pandémie. Aujourd'hui, il est plus affecté que celui des appartements avec moins 46%, soit un rapport par rapport au premier trimestre 2022 divisé par deux. En trois mois, les prix ont fortement baissé. Et puis si on se concentre du côté de l'Île-de-France, la baisse annuelle des prix des appartements, elle atteint 7,9%, en petite couronne 8,4% contre moins 7% en grande couronne. La baisse annuelle des prix des maisons, elle atteint 8,4%. Pas de jaloux, tout le monde a la même baisse selon son secteur géographique. Côté prix et d'après les indicateurs fournis par les notaires du Grand Paris, les avant-contrats, eh bien la hausse annuelle des prix devait être ramenée en Ile-de-France à 6,8% pour les appartements en juillet 2024 et à 5,2% pour les maisons. Dans Paris, le prix au mètre carré fixé à 9490 au premier trimestre 2024 devrait ressortir vers 9370 en juillet. Et en petite couronne, il est de 4920 le mètre carré et 3200 en grande couronne. Bon, pour ce qui est du prix ville par ville et arrondissement par arrondissement, vous retrouverez tout ça dans la chronique de Vincent Favéreau.
Et pour la suite, les professionnels du secteur, comme les futurs acquéreurs, n'espèrent qu'une chose, hein, que les taux des crédits baissent, les prix des biens baissent aussi et que le marché retrouve un second souffle ou du moins qu'il se stabilise. Allez, on passe à la suite actuellement au cœur de l'actualité concernant son prochain club, Kylian Mbappé. Ex-attaquant du PSG, du Paris Saint-Germain et capitaine de l'équipe de France, semble avoir laissé un indice de taille derrière lui, l'achat de sa nouvelle maison à Madrid.
Vous venez hein, de l'entendre et puis vous l'entendez toujours, hein, le traditionnel chant des supporters du Real Madrid à la Madrid chanté. Hein, vous avez de la chance par Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et toute l'ancienne équipe du Real. Bon, faut dire que Kylian a été conseillé hein, par l'ancien capitaine du club, Sergio Ramos, qui connaît plutôt bien le coin. Il a donc décidé de poser ses valises, du moins d'acheter une maison dans la capitale espagnole. Alors oui, hein, même s'il n'a toujours pas annoncé officiellement son prochain club, l'ancien attaquant du PSG, qui quitte enfin la Ligue 1 et arrêtera de traumatiser nos équipes, aurait, selon nos confrères de la presse espagnole, racheté la maison d'une ancienne star du Real Madrid, l'attaquant gallois Gareth Bale. Bon, je vous fais un rapide tour du propriétaire, hein, 1200 mètres carrés, 7 chambres, 11 salles de bain, un green de golf, évidemment, hein, quand on sait que Gareth Bale est un grand amateur, une salle de cinéma ou encore une piscine, rien que ça. Bon, tout ça, ça se trouve hein, dans la résidence la plus sécurisée et la plus huppée hein, de Madrid, la Finca, où vivent de nombreuses célébrités, dont des futurs coéquipiers de Kylian Mbappé. Et puis on le savait, un très bon joueur de foot, mais il semble également que Kylian Mbappé soit doué en tant que négociateur, puisque l'ancienne maison de Gareth Bale était affichée à 13 millions d'euros, et selon les sources de nos confrères espagnols, il aurait réussi à faire baisser le prix de 2 millions. En tout cas, on espère tous qu'il fera rayonner l'équipe de France durant l'Euro 2024, du 14 juin au 14 juillet 2024.
Eh bien, merci beaucoup Erwan, c'est vrai que c'est bientôt hein, l'Euro, on parle
oui,
beaucoup des JO, mais on parle pas de l'Euro.
15 jours.
Oui, c'est vrai.
Et ça s'arrête un très beau jour. Donc, si la France pouvait être en finale le 14 juillet,
c'est vrai.
Ce serait plutôt agréable à vivre, je pense.
C'est vrai, c'est vrai. C'est une date très symbolique. Merci, Erwan.
Le Mac de l'Imo sur Radio Imo.
Et justement, alors vous nous parliez des notaires du Grand Paris. Hein. Je rappelle que d'ailleurs la conférence de presse était dans nos studios et que le club notarial immobilier qui s'est déroulé cette semaine, hein, organisé par la Chambre des notaires du Grand Paris, est à retrouver sur radio.imo, notre site dans les podcasts. Et justement, lors de cette conférence de presse, les notaires ont dévoilé les prix qui chutent à Paris et justement, quels sont les arrondissements où ils ont le plus plonger. Eh bien, réponse avec Vincent Favéreau.
Chaque mois, ils sont très scrutés. Les statistiques publiées par la Chambre des notaires du Grand Paris, ils sont tombés fin mai 2024. Et pour Paris, les prix sont encore en baisse. Comme le soulignent nos confrères de Capital, tous les arrondissements de la capitale affichent une baisse de prix au mètre carré. En moyenne, sur un an, la chute est de 7,9% à 9460 euros par mètre carré en prix moyen. Suivant les arrondissements, les baisses sont plus ou moins fortes, moins 1,9% dans le 8e arrondissement, moins 10,1% dans le 11e, moins 9,2% dans le 12e ou encore moins 4% dans les 4 premiers arrondissements parisiens. A noter les fortes disparités entre les arrondissements avec un prix le plus bas dans le 19e à 7670 euros du mètre carré et un opposé à 13550 euros dans les 5e et 6e arrondissements. Les premiers, deuxième et troisième affichent 12 400 euros du mètre carré. Le marché à Paris, qui s'éloigne de ses records connus il y a quelques années maintenant, le marché revient-il à des prix plus abordables ? Pas sûr, car la demande est très faible à Paris. Le nombre de biens vendus est en chute libre, moins 23% de transactions sur les trois premiers mois de l'année par rapport à l'an dernier. En cause toujours la hausse des taux des crédits immobiliers et le peu de pouvoir d'achat des Français. Paris reste donc dans une situation très problématique, avec peu de ventes et des prix très élevés malgré tout.
Le Mac de l'Immo sur Radio Immo.
Vous étiez en début de semaine, comme vous venez de nous en parler, Bérénice, à la seconde édition de Drive to Zero à l'Hippodrome de Longchamp en début de semaine. Et il me semble que, hormis le temps, vous avez quand même passé une excellente journée.
Oui. Oui, oui, c'est vrai. Alors le temps, en revanche, ne s'y prêtait pas puisqu'il pleuvait. Hein. L'hippodrome de Longchamp, donc qui est dans le 16e, juste à côté du Bois de Boulogne. Et ben voilà, c'est hyper sympa quand il fait beau, quand il fait chaud. Mais là, c'est vrai que c'était un peu tristoun. Mais bon, c'est vrai que c'était les rendez-vous des mobilités décarbonées, la mobilité douce. Deuxième édition, vous l'avez dit, Erwan, de Drive to Zero. J'ai pu rencontrer pas mal d'exposants. C'était très intéressant. Après, il y avait quand même beaucoup de monde et puis les gens étaient quand même heureux de se retrouver et de débattre autour de la mobilité douce. Il y avait pas mal de points forts, il y avait de nombreuses conférences, il y avait 80 plénières, des pitchs et justement tout ça autour des enjeux et des problématiques actuelles de la transition vers la mobilité décarbonée, un des grands chantiers des années à venir.
Et justement, à ce propos, vous avez interviewé Xavier Doublé, responsable marketing de Cariole, une remorque électrique qui s'attache au vélo et qui est en train de conquérir les métropoles.
Xavier Doublé, bonjour, vous êtes le chef du marketing, le responsable marketing de Cariole. Nous sommes à l'événement Drive to Zero à l'hippodrome de Longchamp. Un petit mot peut-être déjà pour commencer, pour nous présenter Cariole.
Cariole est une PME aujourd'hui qui a connu une très jolie croissance depuis 7 ans, date de sa création. Depuis le début, notre mission est de décarboner les centres-villes, notamment la logistique du dernier kilomètre.
Et alors, c'est vrai que c'est des carrioles, en fait, accrochées à des vélos.
On a développé une base roulante, qui est une remorque, qu'on accroche derrière un vélo, mais qui peut aussi être très facilement manipulée à la main. Ça permet de livrer sur 5 à 10 kilomètres le centre-ville. Et en décrochant le vélo, de livrer jusqu'au dernier mètre, on va très souvent à l'intérieur des commerces, à l'intérieur des entrepôts. C'est très souple et très facile à utiliser.
Donc on l'a bien compris, l'objectif c'est la décarbonation du dernier kilomètre, dont on parle beaucoup en ce moment, dont les entreprises s'intéressent de plus en plus. Un petit mot peut-être du coup sur votre développement, sur le profil de vos clients justement.
On a nous aujourd'hui deux grandes familles de clients, souvent des gros commerçants qui ont des réseaux de points de vente et qui veulent livrer leurs clients sur de la livraison fraîche, de la livraison de colis secs. Et puis on a bien sûr toute cette livraison du colis du dernier kilomètre qui ne cesse de grandir. Alors ça s'est un petit peu calmé cette année, mais on a eu une telle croissance pendant la période Covid que c'est à mes yeux juste un rattrapage de tendance. Et on a de ce fait aujourd'hui une très grande partie de notre clientèle composée de groupes comme Metro, comme Amazon, comme Monoprix qui passent à travers des opérateurs pour livrer. Là, cette année, on a beaucoup opéré avec la plateforme du bâtiment qui livre maintenant tous ses chantiers grâce à ses remorques avec un engagement en moins de 2 heures. Et on a ainsi plus d'agilité, plus d'efficacité, puisque nos remorques passent par les pistes cyclables, elles stationnent sans gêner, et elles livrent les chantiers, et c'est vraiment un schéma qui se développe de plus en plus.
Oui, parce qu'elles sont assez fines au final.
Exactement, la législation est à 1 mètre de large, et on peut ainsi livrer, stationner très facilement en ville. C'est ce que les clients recherchent. Pour la plupart d'entre eux, dès qu'ils font une étude, Chronofresh en a fait une très intéressante, ils tournaient à 5-6 points de livraison à l'heure et avec nos remorques, ils sont remontés à 14-15 comme il y a 10 ans en camion.
Alors la livraison du frais est possible également ?
Absolument, ça nécessite très souvent une adaptation. Il faut un hub urbain, donc souvent des opérateurs du Mine de Rungis ou du Mine de Nantes délivrent le matin avec un poids lourd adapté l'essentiel de leur livraison vers un hub urbain. Et ce point central immobilier permet ensuite d'éclater à 3 degrés chez nous en température contrôlée sur la journée toutes les livraisons vers les commerçants et les restaurants. Et puis on a un nouvel appel d'air cette année très intéressant depuis le changement législatif. L'obligation de biodéchets est très intéressant pour nous puisque là encore, que ce soit dans les rues piétonnes, les rues à faible densité, ça nous permet d'aller collecter très facilement.
Donc vous collectez les biodéchets dans les... C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. D'ailleurs, il y a eu des polémiques par rapport à l'hygiène.
C'est pas facile, d'autant que très souvent, les opérateurs sont un peu démunis sur ce sujet. Donc les grands acteurs comme Elior avec la restauration collective ont trouvé des solutions très rapidement. Pour les petits acteurs, c'est plus compliqué, donc on a développé une remorque spécifique avec un accès facilité, des rampes. Et pour les mini-contenants, c'est extrêmement pratique.
Alors vous nous avez parlé du profil de vos clients. Dans quel pays justement sont distribués vos produits ?
Alors nous, on intervient directement en France et aux États-Unis, notamment dans l'État de New York. Et puis nous avons des relais partenaires commerciaux sur le Benelux, l'Angleterre, et on espère se développer là cette année très fortement sur l'Allemagne et l'Espagne.
D'accord, donc c'est les prochains projets.
Non, on a démarré, et ça démarre très très bien, donc ça va être intéressant.
Donc les carrioles sont fabriquées en France ?
Absolument. Notre recherche et développement est à Paris, on a une grosse équipe d'ingénieurs, et puis l'usine, l'assemblage se passe à Tonneins, dans le Lot-et-Garonne.
C'est combien de collaborateurs, carrioles ?
Aujourd'hui, nous sommes 50.
D'accord, et j'imagine que vous comptez vous développer
Je pense qu'on va maintenant stabiliser l'effectif France. On va plutôt sans doute assembler pour les autres continents en local pour réduire le bilan carbone de l'entreprise.
Est-ce que, alors on va parler de l'événement Drive to Zero, donc c'est la première fois que vous venez à cet événement, donc qui est là depuis 2 ans. Quels sont les objectifs que vous êtes fixés justement par rapport à votre présence ?
On a eu la chance de trouver ici des visiteurs intéressés par la transformation de leur flotte logistique. C'est notre objectif à nous, aider les grands groupes aujourd'hui à réfléchir à réorganiser leur supply chain, qui est souvent très sous-traitée, donc peu agile. Et beaucoup aujourd'hui, fort heureusement, reprennent la main sur ces sujets, souvent pour des ambitions de développement durable, mais aussi d'optimisation des livraisons. Et on a pu accompagner, discuter ces jours-ci avec des gros acteurs chez L'Occitane, chez Carrefour, chez Monoprix, qui veulent aller plus loin, réorganiser leur chaîne, la maîtriser mieux, réduire les coûts et améliorer la fiabilité des livraisons.
Et alors, on est quasiment à la fin du salon, on en a fait les 3/4.
C'est un petit peu tôt pour faire un bilan, mais pour une entreprise de petite taille comme la nôtre, il suffit de quelques bons contacts pour justifier un salon de cette envergure.
Oui, c'est suffisant, juste 2-3 bons contacts.
Bien sûr, bien sûr. Si on arrive à en transformer 2 ou 3, ça, c'est déjà super.
Eh bien, merci beaucoup, Xavier Doulet. Un site internet peut-être pour vous trouver ?
Oui, bien sûr, carriole.com, tout simplement. Ah, ça s'écrit avec un K.
Oui, K-R-Y-O-L-E. Merci beaucoup.
Le Mac de l'Imo sur Radio Imo.
De retour dans le Mac de l'Imo, je rappelle qu'à 8h45, on recevra Sylvain Grataloup qui défend la cause des propriétaires puisque c'est le président de l'UNPI, l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers. On découvrira ce syndicat, on redécouvrira ce syndicat pour ceux qui le connaissent déjà. Et puis on parlera également de son parcours, de cet avocat spécialiste en droit immobilier. Mais tout de suite, on parle des fameux taux de crédit et des crédits immobiliers. Alors, on en parle depuis plusieurs semaines dans les médias et puis sur Radio Immo. Mais cette fois-ci, ce n'est pas pour vous dire que malgré la baisse des taux, il reste élevé. Bien au contraire, puisque les banques françaises ont poussé en début de semaine un coup de gueule au sujet de la portabilité des prêts immobiliers, Erwan.
En effet, ce mardi, la Fédération bancaire française a pris la parole via un communiqué de presse contre le fameux principe de portabilité des crédits immobiliers, mais aussi contre la transférabilité. La portabilité des crédits immobiliers, vous le savez, c'est ce principe qui permet à un emprunteur de garder les conditions de son crédit initial lors de l'achat d'un nouveau bien suite à la vente du premier. La transférabilité, elle est un peu moins connue, c'est la variante dans laquelle le crédit est légué au nouveau propriétaire. Alors même si la FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier, pousse depuis plus d'un an pour mettre en évidence cette clause, dans l'espoir de donner un nouveau souffle au marché immobilier, la FBF ne voit pas ça du même œil, en détaillant dans son communiqué que tout cela, je cite, « comporte plus d'inconvénients que d'avantages au-delà de la lourdeur et la complexité particulière de leur éventuelle mise en place ». Une prise de parole de la Fédération bancaire française qui fait suite en grande partie à la proposition de loi déposée le 2 mai dernier par le député Renaissance Damien Adam qui souhaite agir contre le blocage du marché immobilier. Là encore, les banques font part de leur inquiétude en expliquant que cette augmentation de la portabilité des prêts pourrait déboucher non pas comme étant une solution, mais comme un nouveau problème, une nouvelle augmentation des taux d'intérêt. Alors si la situation actuelle du marché immobilier semble encore bien emmêlée, quand pour les banques c'est les prix qui sont trop hauts et pour les professionnels du secteur ce sont les taux et les crédits qui sont trop hauts ou trop compliqués à obtenir, tout cela semble encore bien compliqué quand on voit les deux camps se renvoyer la balle sans jamais monter au filet.
Le Mac de l'Imo sur Radio Immo.
Rebonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Immo, on est bien le 31 mai. Bon, installez-vous, si vous avez un étudiant, un fils ou un cousin qui va bientôt s'installer, eh bien Bérénice va répondre à votre question. Quelles sont les villes où les étudiants ont le moins de chances de trouver un logement ?
Eh oui, Erwan, je réponds à cette question. Alors, taux d'intérêt des crédits immobiliers qui ont flambé, on en parle. Difficulté à obtenir un prêt, on en parle aussi. Prix des biens trop élevés, construction en berne, faute de pouvoir acheter leur résidence principale, les Français n'ont d'autre choix que de la louer. Résultat, alors que la demande de location ne cesse d'augmenter depuis plusieurs mois, c'est plus 18% en moyenne en 2023 en France, les biens meublés disponibles à la location ont diminué de 20% l'année dernière. C'est un phénomène qui est particulièrement marquant pour les petites surfaces qui sont très prisées par les étudiants notamment. C'est pourquoi ils sont touchés de plein fouet par cette crise du logement. Alors le gestionnaire de résidences étudiantes Les Belles Années vient de publier le classement des villes françaises où la tension locative sur les logements étudiants, les T1, est la plus forte. En première position, on retrouve Rennes, ensuite Lyon, La Rochelle, suivi de Caen, Bordeaux, Strasbourg, puis Angers, Brest, Montpellier et enfin Aix-en-Provence. Alors, trois autres villes sont à surveiller, puisqu'elles risquent de voir la situation pour leurs étudiants se dégrader en matière de logement. Il s'agit de Dijon, Le Mans et Marseille. Marseille, où de plus en plus d'écoles s'implantent, mais y a pas de plus en plus de logements. Donc forcément, ça va commencer à poser problème. Alors que les premières réponses d'admission sur Parcoursup ont été publiés hier. Le logement est plus que jamais sous tension en France. Une situation dramatique, hein, je le rappelle, puisque un étudiant sur 10 abandonne ses études faute de logement.
Le Mac de l'Immo sur Radio Immo.
De retour dans le Mac de l'Immo, dans quelques instants, on découvrira une start-up Immo, tiens Erwan, grâce à Jean-Michel Royot. Il s'agira de Check and Visit, voilà, je vous le dis, comme ça, il n'y a plus de suspense.
Je ne connais pas.
Eh ben, on va découvrir cette start-up, justement. Et puis, on recevra Sylvain Grattalou, le président de l'UNPI, l'union qui défend les propriétaires immobiliers. Il y en a beaucoup en France, hein. 57% des Français sont propriétaires, selon les derniers chiffres de l'INSEE. En tout cas, on parlait de Marseille tout à l'heure. Eh bien, focus une nouvelle fois sur Marseille. Peut-on encore construire dans la cité phocéenne ? Peut-elle s'intensifier ? Réponse avec Vincent Favéreau.
Depuis quelques années, Marseille est de plus en plus attractive. La ville voit se développer une demande accrue en logement, combinée à un réel besoin de longue date. Associé à cela, il faut compter sur la nouvelle municipalité depuis 2020, à un président de la République qui souhaite voir la ville évoluer et semble y mettre les moyens. Et dernièrement, et une proposition de loi du ministre du Logement qui veut donner plus de facilité pour la construction, notamment en agissant sur les délais d'autorisation de permis de construire. Mais est-il encore possible de construire dans la deuxième plus grande ville de France ? Oui, si l'on prend en compte les disparités très grandes dans cette ville très étendue, ce que soulignent les acteurs locaux et que rapportent nos confrères de la Provence. On observe par exemple que les prix d'achat d'un bien vont évoluer en prenant en compte la densité. Une agence locale souligne que moins il y a de monde et plus c'est cher, tout le contraire de Paris. À Marseille, on note par exemple certains quartiers avec une densité extrêmement forte, entre 20 et 30 000 habitants au kilomètre carré, comme à Noailles ou à la Belle de Mai. D'autres quartiers ont une densité proche d'un village à 2500 habitants au kilomètre carré, comme à l'Estac par exemple. Il s'agit donc de construire intelligemment, comme le souligne la municipalité par la voix de son adjoint à l'urbanisme. Il dit par exemple ne pas vouloir faire l'erreur de densifier sans offre de transport, comme ça a été le cas dans les 15e et 16e arrondissements auparavant. L'élu souhaite aussi construire à Marseille tout en tenant les engagements en matière de développement durable et de préservation de l'environnement. On peut donc construire à Marseille, mais la spécificité de la ville est à prendre en compte et à étudier très précisément, comme dans beaucoup de sujets d'ailleurs, où la ville se démarque par sa singularité comparativement aux autres grandes métropoles françaises.
Le Mac de l'Immo sur Radio Immo.
Vous êtes bien sur Radio Immo, dans le Mac de l'Immo, votre matinale préférée, on peut le dire, je pense, Bérénice. En tout cas, on va reparler de Drive to Zero, puisque vous avez fait en interview Aurélien Michelviou, le cofondateur de Agnos. Agnos, eh bien, c'est une une boîte qui propose des bornes de recharge électrique éco-conçues et 100% évolutives. On écoute tout de suite Aurélien Michelviou au micro de Bérénice.
Aurélien Michelviou, bonjour. Vous êtes cofondateur et CTO de Agnos. Un petit mot peut-être pour nous présenter votre entreprise.
Alors nous avons créé la société Agnos en 2019. Nous sommes concepteurs et fabricants de bornes de recharge durables et évolutives. Notre mission, c'est de simplifier l'expérience de la recharge pour les installateurs, les exploitants et les usagers.
Alors quand on dit une borne de recharge évolutive, qu'est-ce que ça veut dire pour nos auditeurs ?
Alors on a travaillé l'éco-conception de notre borne parce qu'on maîtrise toute la partie technologique, la mécanique, l'électronique, l'informatique. Et parmi cette éco-conception, on a travaillé justement la maintenance. On a la possibilité de remplacer 100% de la façade de notre produit en moins de 5 minutes et sans travaux, que ce soit pour faire évoluer par rapport à des nouvelles normes, des nouvelles technologies ou même pour un sujet de maintenance, de remplacement et de remise en service.
Qui sont vos clients ? Quels sont les profils de vos clients ?
Aujourd'hui, on travaille beaucoup en B2B avec des entreprises comme le Crédit Agricole, Vinted, mais aussi des collectivités, des métropoles et des syndicats d'énergie.
D'accord. Quelle est la part des collectivités par rapport à la part du privé ?
Alors aujourd'hui, c'est minoritaire, je dirais peut-être une vingtaine de pourcents, mais ça se développe de plus en plus.
Et j'imagine que, pareil, au niveau des entreprises, il y en a de plus en plus qui s'intéressent aux bornes de recharge.
Oui, il y a trois dynamiques. Il y a d'une part un côté normatif, il y a la loi qui impose aux entreprises d'avoir des places de parking équipées de bornes de recharge, qui leur impose aussi d'avoir des véhicules électriques en plus grande proportion dans leur flotte. Et puis surtout, il y a une conscience générale des entreprises, notamment autour du RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, qui fait qu'elles sentent l'intérêt de basculer leur flotte à l'électrique, et qu'en plus de basculer leur flotte à l'électrique, elles voient avec notre produit qu'elles peuvent aller encore plus loin avec un produit qui du coup est éco-conçu, permet d'être reconditionné et favorise la réparabilité et la maintenance.
Est-ce que dans les mois, les années à venir, vous comptez vous développer dans d'autres pays ?
Oui, tout à fait. On est en phase de levée de fonds et ça permettra de développer des nouveaux produits, une force commerciale plus importante et d'aller justement nous développer dans d'autres pays. Avec une idée qu'on a, c'est qu'on veut faire du made in local. Aujourd'hui, on fait tout en France. On conçoit et on fabrique en France. Et demain, on pourrait attaquer d'autres pays avec des partenaires pour la partie fabrication. On continuerait d'utiliser nos process qu'on maîtrise à 100%, mais dans d'autres usines, dans les pays où on voudrait se développer.
Alors, ça fait combien de temps que les bornes sont commercialisées ? Il a fallu combien de temps depuis la création pour justement mettre au point les bornes de recharge ?
La dernière génération qu'on a présentée, pour laquelle on a eu le prix de l'innovation sur le salon, sont des bornes qu'on a travaillées peut-être pendant 2 ans de recherche et développement. Et ça fait maintenant plus de 2 ans, on va dire, que les premiers modèles ont été déployés.
Et alors, c'est fabriqué où en France ?
À Castres, il y a 95% des étapes de transformation qui sont réalisées dans un rayon de 30 km. Comme je vous disais, on va tout faire, l'acier, la carte électronique, l'assemblage électromécanique, tout est réalisé autour de Castres.
Et ça, j'imagine que ça plaît beaucoup aux entreprises, le Made in France ?
Oui, le Made in France, c'est un sujet. Comme je disais, le reconditionnement, c'est aussi un paramètre important. Et ça va de toute façon dans le sens de l'histoire d'éviter de surproduire, de réparer et d'utiliser les éléments le plus longtemps possible.
Alors, vous avez parlé du prix que vous avez remporté hier, le prix de l'innovation. Vous êtes lauréat. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Est-ce que c'est une belle visibilité ? Est-ce que vous avez eu des retours déjà depuis hier ?
Oui, tout à fait. C'est une très belle récompense déjà qui avait une portée directe puisqu'il y avait un très bel auditoire. C'est assez, on est assez fiers de ça parce qu'on était au milieu d'autres projets très ambitieux et très intéressants. Et effectivement, c'est ce qu'on vient chercher dans un salon comme celui-là. C'est la notoriété, c'est de la légitimité. Et ce prix, il vient asseoir définitivement du coup notre présence. On l'a déjà vu aujourd'hui, oui, avec des retours de gens qui nous ont vus grâce à ce prix hier soir.
Et alors, pour parler de l'événement en lui-même, vous avez un stand. On arrive bientôt à la fin du salon. On a fait les 3/4. Quel est le bilan que vous pouvez tirer de cet événement ?
Alors, un bilan que la météo n'était pas terrible. Et blague à part, ça a été assez dense. Y a quand même une belle traction. Il y a beaucoup de gens de l'écosystème. Et donc, ça permet de regarder tout ce qui se passe, de voir les différentes dynamiques. Pas mal de public aussi, de passage. Pour nous, ça a été assez dense. C'est deux journées, mais bien remplies.
Et puis, pour finir, un site internet pour vous retrouver ?
Oui, tout à fait. www.agnos.fr.
Bien, merci beaucoup pour cette interview, Aurélien.
Merci à vous.
Le Mac de l'Imo, la start-up Imo, Jean-Michel Royot.
Dans le Mac de l'Imo, comme chaque vendredi, on est ensemble et on a une tradition. On vous fait découvrir une start-up Imo grâce à Jean-Michel Royot. Aujourd'hui, on s'intéresse à Check and Visit et on reçoit son CEO, Thibault Letreux, que je vais laisser entre les mains de Jean-Michel Royot. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour à toutes et à tous ce matin. Je suis absolument ravi d'accueillir Thibault Letreux. Bonjour Thibault.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Super bien, merci de l'invitation.
Écoutez, avec plaisir. Donc Thibault Letreux qui est le PDG et cofondateur de Check and Visit. Thibault va tout nous raconter. Et on va commencer par la première question, Thibault. Quelle est la promesse de Check and Visit ?
La promesse, c'est d'aller collecter des données rapidement pour des entreprises avec précision et n'importe où. Et pour ça, on propose des inspections sur mesure où on permet d'optimiser et de rationaliser les processus métiers de nos clients à l'aide de la technologie et d'intervenants sur le terrain.
Donc là, on parle d'état des lieux, de visite locative, d'inventaire du patrimoine, c'est bien ça ?
Exactement, et puis finalement, toute inspection, tout type de collecte de données qui nécessiterait soit des données chiffrées, images ou même 3D, puisqu'on collecte aussi les espaces pour les numériser et en faire des doubles numériques.
Très bien, écoutez, c'est particulièrement intéressant, donc on a envie d'en savoir plus et vous connaissez la tradition de Startup Imo, c'est de donner une minute pour tout savoir. Alors on veut savoir depuis quand ça existe, quand est-ce donc Check and Visit a été créé, quel type de clients vous cherchez, vous nous donnerez des références après évidemment, comment ça marche, combien vous êtes, est-ce que vous intervenez sur toutes les régions françaises, y compris Outre-mer, voilà, on veut tout savoir, donc je vais me tourner vers notre super tech Théo qui va vous mettre un chronomètre dans les oreilles, c'est toujours un petit peu stressant. On va vous donner une minute, allez, top chrono.
Eh bien, Check and Visit est né il y a maintenant 6 ans à la base sur un problème simple qui était l'état des lieux. Et donc du coup, pour ça, on a développé une technologie qui permet de faire ces états des lieux en couplant un réseau d'intervenants qui couvre aujourd'hui tout le territoire français, 3200 codes postaux. Et de fil en aiguille, nous sommes spécialisés dans la collecte de données pour le compte de tiers, pour des entreprises qui ont des problématiques, soit de connaissance du patrimoine comme les inventaires, comme on a déjà évoqué, soit de numérisation de patrimoine pour avoir des plans, des visites virtuelles, des modèles 3D, et puis plus récemment des prestations vraiment sur mesure où les clients viennent nous voir en nous disant j'ai ce type de problème, comment la technologie et votre réseau d'intervenants peut permettre de récolter plus rapidement ces données ou pour pouvoir résoudre des problématiques auprès de clients pour les satisfaire plus rapidement et de manière plus importante. Donc, à titre d'exemple, sur la partie état des lieux, on a divisé les litiges par 4.
Oui, ce qui est extrêmement significatif, effectivement.
Et oui.
Combien vous êtes de salariés aujourd'hui ? Vous utilisez des prestataires externes, c'est bien ça ?
Oui, alors on a un modèle hybride, on a à la fois des salariés sur le terrain et principalement des partenaires qu'on certifie. Donc on en a 350 sur le terrain qui couvrent, comme je le disais, 3200 codes postaux et on est une équipe d'une soixantaine de personnes basées à Rennes et à Paris, donc avec un tiers de développeurs en interne.
Et vos zones géographiques d'intervention, c'est l'Hexagone ? Vous couvrez aujourd'hui les départements d'outre-mer ?
Non, on ne couvre pas aujourd'hui les départements d'outre-mer. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est capable aujourd'hui d'ouvrir n'importe quelle zone en 4 à 6 semaines, puisque on a toujours des clients qui viennent nous voir avec des problématiques spécifiques, qu'elles soient hexagonales ou même à l'étranger. On a récemment eu des gens en Belgique, en Suisse ou en Allemagne. Donc du coup, on étudie toujours avec nos clients pour voir quelle est la meilleure solution, soit de faire en interne, soit en partenariat avec d'autres partenaires locaux qui pourraient utiliser notre technologie.
Donc le développement international, en tout cas européen, est à l'étude ?
Dès qu'on a des clients, c'est toujours un plaisir d'essayer de trouver des solutions pour les satisfaire. Donc on ne veut pas mettre la charrue avant les bœufs, donc on ne fait pas une expansion aujourd'hui de notre propre chef, mais si des clients importants viennent nous chercher pour pouvoir y aller, on pourra effectivement étudier le sujet.
Super, allez, parlez-nous de vos clients. Donnez-nous quelques références, des noms qui parlent à nos auditeurs de Radio Immo.
Eh bien, du coup, on a commencé, comme je disais, par l'état des lieux. Donc forcément, on a beaucoup d'administrateurs de biens comme Nexity, Altarea ou des agences plus indépendantes comme Thierry Immobilier. Et puis, depuis quelques années, donc maintenant 4 ans, on est très focalisé sur les bailleurs sociaux comme INLI, CDC Habitat, Aiguillon Construction du groupe Arcade Vive, pour lesquels, eh bien, du coup, on va à la fois faire des états des lieux, des visites locatives, mais aussi des grands inventaires de patrimoine pour mieux connaître les actifs qu'ils gèrent et pouvoir mieux faire le PSP, plan stratégique de patrimoine et plan pluriannuel de travaux.
Parfait. Écoutez, c'est très intéressant. Alors, à l'heure où il y a une réflexion sur les installations énergétiques, ça fait partie de vos missions de regarder quel type de bailleur, quel bailleur a X% de chauffe-eau électrique, Y% de chaudière à gaz, pardon.
Oui, on en a fait un super exemple. On a fait un inventaire dans 8500 logements et 600 copropriétés sur tout le territoire pour un institutionnel qui était géré par un bailleur social, justement pour savoir ok, quels sont ces actifs que je vais devoir rénover ou démolir en vue d'une reconstruction si ces derniers ne font pas sens d'un point de vue à la fois énergétique et économique. Et donc, du coup, on a même rajouté une couche de modélisation 3D et de génération de plans pour pouvoir mieux gérer ces actifs, mieux les connaître et ensuite intégrer ça dans le RP et la gestion quotidienne avec les équipes de maintenance et de la gestion locative.
On peut dire que votre intervention est vraiment d'actualité. Alors, j'imagine que vous allez avoir un certain nombre d'intérêts après cette interview. Alors, comment nos auditeurs peuvent vous contacter ?
Aujourd'hui, c'est très simple. Il suffit de me contacter sur LinkedIn, Thibault Letreut, ou directement d'aller sur le site de checkandvisit.com pour pouvoir entrer en contact avec une personne de notre équipe directement.
Parfait, on reprendra l'interview, le résumé de l'interview et puis les coordonnées de Thibault à travers un post LinkedIn que nous allons faire ensemble, comme ça toute cette information pourra être partagée. Écoutez Thibault, bravo, six premières belles années, on vous souhaite au nom de Radio Immo beaucoup de succès dans les années à venir et puis au plaisir de vous accueillir bientôt pour que vous nous parliez de votre développement et de vos nouveaux challenges. Un grand bravo, félicitations et à très bientôt. Merci beaucoup.
Le Mac de l'Immo sur Radio Immo.
De retour dans le Mac de l'Immo, et bien ça y est, la première partie touche à sa fin, Erwan. Qu'est-ce que vous allez faire de beau ce week-end ?
Eh bien, je vais regarder, je pense, comme de nombreuses personnes, à la finale de la Ligue des Champions.
Ah, c'est alors Real contre
Borussia Dortmund. Et c'est la première fois que ces deux équipes vont s'affronter en finale. Et ce sera à Wembley, à Londres, ce samedi à 21h.
Alors, vos pronostics ?
Alors, je pense que le Real Madrid devrait gagner, même si j'espère que Marco Reus, le capitaine du Borussia, pourra avoir un joli trophée avant de quitter son club dans lequel il a passé plus de 10 ans.
Ah. Bon, moi je dis 2-1 pour Madrid. Oui, 2-1.
Vous voyez les futurs coéquipiers de Kylian Mbappé l'emporter.
Ouais. Je pense qu'ils ont hâte de l'accueillir.
Je dirais 3-1.
3-1 pour Madrid. Allez. Bon, qu'est-ce qu'on parie ?
On va se retrouver la semaine prochaine pour voir ça.
Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on parie
Qu'est-ce que vous voulez parier ?
Je sais pas. On parie. Allez, une interview d'un joueur de foot.
Très bien. Vendu.
Allez, c'est noté. Bon, dans quelques instants, Sylvain Grattalou sera sur notre plateau. Il est arrivé, il est en coulisses. Il boit un petit café, le président de l'UNPI, l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers. Juste avant de le retrouver, on va écouter le Flash Info. Et puis, sa première musique, c'est un compositeur autrichien assez connu, hein, Haydn. Et on va écouter la création d'Haydn. Et on revient à tout de suite.
Yeah.
Le Mac de l'Imo sur Radio Imo.